du jazz.
D'hier et d'aujourd'hui.
Laurent Verdot.
Pascal Verdot.
Bonsoir à tous.
Bonsoir. Vous avez reconnu dans l'eau de la Clairefontaine. Qui chantait ça?
Oui, je pense que personne n'a oublié cette chanson, ni d'ailleurs le répertoire de ce chanteur dont on commémore cette semaine le centenaire de la naissance et le 40e anniversaire de la disparition. Car ce cher Georges Brassens a eu le bon esprit de naître un 22 octobre et de mourir un 29. Si bien que là, on l'a tout à la fois. Surtout qu'il est mort à 60 ans, tout rond.
Il aimait peut-être les comptes exacts.
Ah, ça, c'est possible. Figurez-vous que Georges Brassens, non seulement aimait le jazz, mais était un connaisseur et un érudit. Et naturellement, la planète du jazz se devait d'honorer sa mémoire aujourd'hui, où on commémore un peu partout donc ce centenaire. Et nous allons commencer par le commencement. Un beau jour, Brassens est monté depuis Sète jusqu'à Paris, après des péripéties dont les médias se sont largement fait écho, inutile d'y revenir, et naturellement, il s'est retrouvé au début des années 50, à l'endroit où tout se passait, c'est-à-dire
Saint-Germain-des-Prés. Et là, il est devenu, pas tout de suite, hein, parce qu'il lui a fallu quand même un peu de temps, il est devenu une des personnalités de Saint-Germain-des-Prés. Il faut reconnaître que c'était un type assez particulier, et sa particularité, c'était de pas avoir l'air très aimable, même un peu grognon parfois.
Il avait un côté ours assez prononcé. Tout le monde est d'accord là-dessus, en tout cas ceux qui y étaient.
Je pense qu'en réalité c'était un grand timide et que la scène, c'est pas commode. Hein.
Tu as absolument raison. Brassens, c'était un type qui avait le trac. Quand il a commencé à chanter en public, il a littéralement fallu l'y traîner parce que lui, il se voyait auteur-compositeur pour les autres.
En tous les cas, au début, il n'y en a pas beaucoup qui voulaient chanter ses chansons. Elles étaient très particulières, elles étaient assez rebelles. Hein. Et c'était pas franchement la mode à l'époque.
Et nous qui l'avons vu vers la fin de sa carrière à Bobino, nous en avons gardé l'impression de quelqu'un qui était très timide. Il souriait gentiment aux gens. Il écoutait le public qui lui réclamait telle ou telle chanson. Il faisait un bon sourire et il attaquait. Il n'était pas du tout expansif quand il faisait ça. Revenons à Saint-Germain-des-Prés.
Toute cette jeunesse qui était dans les caves, elle dansait comme des perdus.
C'est une époque où on a dansé comme jamais, ça c'est sûr.
On les appelait d'ailleurs d'un nom un peu rigolo, les rats de cave. Élégie à un rat de cave.
Personne n'aurait cru ce cave prophétisant que par malheur. Mon pauvre petit rat de cave, tu débarquerais avant l'heure. Tu n'étais pas du genre qui vire de bord et tous on le savait. Du genre à quitter le navire et tu es la première qui l'ait fait. Maintenant, mamie, qu'on te séquestre au sein des cieux, que je me déguise en chanteur d'orchestre pour tes beaux yeux. En partant, mamie, je te l'assure, tu as fichu le noir au fond de nous, quoi qu'on n'ait pas mis de crêpes sur nos putains de bignoux. On ne m'a jamais vu, faut que tu le notes, c'est une primeur. Faire un bœuf avec des croque-notes, c'est en ton honneur. Sache aussi qu'en écoutant Béchette, folle gamberge, on voit la nuit tomber. Ton fantôme qui sautille en cachette, rue du vieux Colombier. Ton fantôme qui sautille en cachette rue du vieux Colombier. Sans aucun au revoir mes frères, mais on ne t'en veut pas pour autant. Mine de rien, tu es allé faire ton trou dans les neiges d'antan. Désormais, c'est pas des salades parmi Flora, Jeanne, Thaïs. J'inclus ton nom à la balade des belles dames du temps jadis. Maintenant, mamie, ta place est faite chez les gentils. Que tu as retrouvé pour l'éternelle fête, papa Zouti. Chauffe la place à tous les vieux potaches, machin chose, et Luther et l'oignon. Et ce gras du bide de moustache, tes fidèles compagnons. S'il est brave, pourquoi que Dieu le Père là-haut ferait quelques différences entre Saint-Pierre et Saint-Germain-des-Prés. De tout cœur, on espère que dans ce paradis miséricordieux brille pour toi des lendemains qui dansent où il n'y a pas de bon Dieu. Brille pour toi des lendemains qui dansent où il n'y a pas de bon Dieu.
Il y a eu grande époque des surprise parties où on dansait que sur du jazz.
Oui, ceux qui dansaient dans les caves, ils étaient déjà un peu plus adultes, mais les plus jeunes se retrouvaient dans des surprise parties où chacun apportait ses disques. Et là, il y avait quelqu'un qui faisait fondre tout le monde.
Sidney Bechet, bien sûr. À cette époque-là, la moitié des 45 tours des surprise parties, c'était du Sidney Bechet. Et naturellement, ce cher Sidney n'avait pas pu oublier que Brassens, ça se jazzifiait facilement. Et nous allons justement vous faire entendre un échantillon de cette combinaison étonnante et extrêmement énergique entre le répertoire de Brassens et le jazz Nouvelle-Orléans. Voici
Brave Margot.
Celle qui dégrafait volontiers son corsage.
Nous n'en dirons pas plus. Peut-être que des enfants nous écoutent.
C'est vrai, mais enfin, on aurait peut-être aimé être le chat. Saint-Germain-des-Prés. Il y a fait la connaissance, naturellement, bon amateur de jazz qu'il était, de l'orchestre vedette du lieu à cette époque, c'est-à-dire celui de Claude Luther. Et chez Claude Luther, il y avait un batteur assez spécial.
Ils se sont retrouvés en pays de connaissance, si on peut dire, parce que c'était deux moustachus.
Ah oui, pour être moustachus, ils étaient moustachus.
D'ailleurs, il y en avait un qu'on n'appelait plus que Moustache.
Alors Moustache, de son vrai nom François Galpides, c'était un bon batteur qui jouait donc chez Claude Luther. Et par la suite, il a fait beaucoup de métiers dans l'animation. C'était un animateur exceptionnel et ça l'a mené peu à peu, beaucoup plus tard, à devenir le programmeur et le maître de cérémonie du jazz club du Méridien. Le Méridien, c'est un endroit à Paris, près de la Porte Maillot, où il y avait au rez-de-chaussée ce grand jazz club qui était très couru et qui d'ailleurs doit l'être toujours. Et là, il avait sous la main, ce cher moustache, tous les gens de jazz illustres, américains, qui passaient par Paris. Et il s'est souvenu d'une promesse qu'il avait faite à son ami Georges Brassens, très longtemps auparavant.
Il lui avait dit, tu sais tes chansons, ça peut se mettre en jazz tellement facilement. C'est tellement cadencé, rythmique. Je te promets, on le fera un jour. Or Brassens, qui était très modeste, il a un petit peu ri, mais bon, il n'y croyait pas trop.
Vous allez voir la suite. Moustache se dit, je vais former un orchestre avec les meilleurs musiciens français et nous allons jazzifier le répertoire de Brassens.
Eh bien, cet orchestre, il a appelé d'un nom très plaisant, les Petits Français. Ce qui voulait bien dire, nous les Français, on est des jazzmen.
Ah, pour être des jazzmen, c'était des jazzmen et parmi les meilleurs, entre autres, le trompettiste Irakli, le saxophoniste Zanini, qui était très connu dans la variété également, le tromboniste Benny Vasseur, enfin des gens tout à fait formidable, mais il y avait aussi le bassiste attitré de notre ami Brassens.
Ah oui, qui l'a gardé quasiment toute sa vie,
ah oui.
Paul Nicolas.
Mais alors là, il a eu une difficulté, c'est qu'il avait envie de tout jazzifier. Il y avait quand même beaucoup trop de chansons parce qu'il ne s'agissait que d'en faire une douzaine. Pour faire le tri, Moustache a fait appel à un très bon musicien français, un des meilleurs de l'époque, saxophoniste qui s'appelait Michel Attenou. Et c'est donc Michel Attenou qui a fait le tri dans le répertoire de Brassens et qui a fait les arrangements qui allaient avec.
Donc on va vous passer la prière où Michel Attenou, le chef d'orchestre, ben là, il est soliste.
Tu sais que Georges Brassens avait été, quand il était gamin, retiré des cours de musique par punition, parce qu'il était un tantinet turbulent. On ne va pas s'attarder là-dessus, mais ça a quand même été assez loin dans le gag, hein, ce parcours juvénile.
Et donc, de ce fait, ce musicien, ce poète, bien, il ne savait pas lire la musique.
Alors, sans savoir lire la musique, il a quand même appris à jouer du piano d'oreille, et puis de la guitare également d'oreille. Et ça ne l'a pas du tout empêché de composer tous ces airs que nous avons retenus, parce que finalement, quand on entend à la radio actuellement un disque de Brassens qui passe, pour nous c'est familier. Voilà, c'est la vraie musique populaire, ça.
Il était tellement, finalement, bon musicien, sans savoir lire la musique, qu'il a participé lui-même à ces disques.
Où est-ce que vous entendez là? C'est une section rythmique avec Brassens dedans. Il y a même des moments où on l'entend distinctement. Et tous les musiciens américains qui sont passés, et les jazzmen français bien sûr, l'ont trouvé excellent. Il avait une pulsation, un rythme tout à fait remarquable.
Oui.
Qu'on se le dise.
Alors ces petits Français et leur chef d'orchestre, ils ne se sont pas contentés de jouer tout seuls. Il y a eu plein de musiciens américains qui se sont agrégés à ce petit orchestre des Français.
Et c'est comme ça qu'il y a eu une cohabitation entre des gens...
A priori, pas forcément compatibles.
Pourtant, ça a très bien fonctionné. Vous allez en entendre quelques-uns. Nous allons commencer par une pianiste. Une pianiste, certains disent qu'elle joue comme un homme. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est une femme qui avait une vigueur pianistique tout à fait étonnante. Elle s'appelait Dorothy Donegan. Un côté volcanique et... si mes souvenirs sont bons, aux séances d'enregistrement, Moustache, qui l'avait amené donc, a eu quelques difficultés pour la calmer, pour que son jeu soit un petit peu plus assis. En tout cas, là, elle s'est prise pendant quelques instants pour la femme d'Hector.
Maintenant, une chanson très chère à notre cœur, à nous les Auvergnats. Vous savez, souvent, nous les Auvergnats, on se déprécie nous-mêmes. On dit « Oh, pauvre moi, je sais pas, je suis pas si bon, pas si bonne, et tout ça. » Et ça a été un succès extraordinaire parce que Brassens a fait une chanson qui s'appelle « Chanson pour l'Auvergnat » où il y a justement, où il exprime toute l'humanité d'un Auvergnat, quand lui, Brassens, était dans la mouise. Cet Auvergnat lui a donné quatre bouts de bois, du charbon, l'a aidé. C'est un morceau génial parce que il parle de la bonté d'autrui. Et il n'y a pas que les Auvergnats, c'est vrai, dans ce qu'il dit.
C'est vrai, mais là, il s'agit bien d'Auvergnats, car tout cela, en réalité, c'est la transposition de ce qui lui est arrivé. Et est-ce que ça t'a plu, le piano de Dorothy Donegan ?
Énergique.
Énergique, hein, ben ça t'a plu ?
Oui.
Vraiment ?
Oui, bien sûr.
Eh ben, t'as de la chance, la revoici.
Dans le morceau suivant, vous allez entendre, jouant avec ces petits Français, des historiques, des gens vraiment connus.
Ah oui, mais vraiment, historique, hein, dans les dictionnaires, dans les histoires du jazz, on retrouve...
Harry Edison et Eddie Davis. Harry Edison, dont le surnom était Sweets.
Renseignement pris, c'est pas parce qu'il aimait beaucoup les gâteaux, c'est parce qu'il était très doux avec les dames.
Il en faut.
Mais dis donc, Eddie Davis aussi avait un surnom. Jaws. Tu sais pourquoi ? Ça veut dire mâchoire. Oula. Parce qu'il avait une pince absolument d'acier sur le bec de son saxophone ténor. Et il était réputé pour son jeu énergique. Mais ces deux musiciens qui étaient quand même des types de fort tempérament, là, dans le morceau qui vient, ils sont presque lyriques.
Au bois de mon cœur. Thank you. Là, il y a une petite histoire qui va vous toucher.
C'est effectivement très touchant.
Il y avait un homme, musicien, américain.
Grand trompettiste.
John Newman. Et cet homme-là, il avait eu un coup de cœur, mais fou, pour une Auvergnate, figurez-vous.
Coup de cœur réciproque.
Oui, oui, oui. Pour des raisons un peu complexes.
X, Y, Z.
Ils n'ont jamais pu se marier. Mais c'était deux cœurs en un.
C'est peut-être en pensant à ça que John Newman a participé, aux côtés des petits Français, à l'enregistrement de la marche nuptiale, que nous allons faire suivre, car c'est encore lui le soliste du morceau suivant, qui s'appelle...
Histoire de faussaire.
Thank you.
besoin de toi.
Oh.
Mais oui, mais oui.
Mais tu sais que nous sommes à une heure de grande écoute.
Oui, eh ben écoute, ils vont écouter et puis c'est pas grave.
Ah ben dis donc, alors là...
Brassens, il compte quelque chose dont on suppose que ça a été très difficile pour lui. Il était très jeune et la fille encore plus. Et Brassens, timide, très très amoureux, la petite, elle lui a fait vivre une vie absolument d'enfer.
Ah oui, il en a vu de toutes les couleurs et il est possible que cette histoire qui est parvenue jusqu'à nos oreilles par de multiples indiscrétions ait présidé à la composition de la chanson dont vous allez entendre maintenant l'interprétation de jazz. Le soliste, on le connaissait très bien.
L'homme des suraigus, Cat Anderson.
Là, il s'est muni d'un débouchévier.
Voilà. Comme quoi, on n'est pas forcé de toujours faire sa spécialité. On peut aussi, c'est ce qu'il nous disait d'ailleurs, jouer tendre avec plaisir.
Et là donc, avec son débouchévier, il joue au wah-wah. Ça s'appelle comme ça. Alors c'est le moment de vous dire que quand un trompettiste sait jouer wah-wah et également sait jouer ouvert comme n'importe qui, c'est déjà un très bon musicien parce que ça équivaut pratiquement à deux instruments différents.
Imaginez bien qu'un homme comme Brassens, cet homme-là, son souvenir a été rappelé assez souvent. On a commencé avec les 10 ans d'après sa mort, puis les 20 ans.
D'ailleurs, le premier morceau que vous avez entendu, qui a ouvert l'émission dans l'eau de la Clairefontaine, a été enregistré pour les 20 ans de Brassens dans un disque des Dumoustier Stompers. Et maintenant, nous allons sauter 10 ans de plus, car il y a aussi les...
30 ans, si on sait compter, hein.
Et là, il y en avait un qui attendait son heure depuis longtemps, c'était François Biensand. François Biensand est bien connu parmi les jazzmen français. Il est trompettiste, il est organiste, il est pianiste, il est batteur, il est tout ce qu'on voudra.
Il est multicarte.
Et alors là, il est surtout arrangeur. Et là, ce qu'il attendait avec impatience, c'était une commémoration de Brassens, ce qui lui permettrait, un de ses rêves, publier un disque où il aurait arrangé, comme Michel Atenoux 30 ans avant lui, des morceaux du répertoire de Brassens. Et il a réalisé ce disque avec un orchestre. Eh bien, tout ça, c'est pas difficile. C'est une génération plus loin, dans le dessus du panier, des musiciens de jazz français. Et nous en extrayons.
Je me suis fait tout petit.
Franchement, devant tant de talent, on ne peut que se sentir tout petit.
Thank you.
Brassens, quand il avait quelque chose à dire, il le disait.
Ah oui, ça, c'est sûr.
Et dans le morceau que nous allons vous passer, le temps ne fait rien à l'affaire. C'est pas tout à fait... Maintenant, on vous dit la suite.
Ah non, non, non. Il va la dire lui-même parce que nous avons prévu un petit montage qui va permettre à tous nos auditeurs d'apprécier les paroles du morceau. Nous avions d'ailleurs pensé dédicacer ce morceau à quel... Enfin, finalement, on ne le fera pas parce que, tu sais, à la planète du jazz, nous sommes des gens charitables.
Et puis, il n'y en a pas tant que ça, allez.
Oh, quand même.
Allez.
Oh, quand
allez.
Même. Oh, oui, enfin.
Bon, on ne va pas épiloguer.
Voilà, de toute façon, il s'agit d'un petit montage permettant d'entendre ce cher Georges dire ce qu'il a à dire. Et nous enchaînerons sur la jazzification du même morceau, qui n'était pas très difficile, parce que Brassens était un compositeur extrêmement rigoureux, hein, très rigoureux. Donc ça colle tout de suite avec quelque chose de rythmé. Donc nous allons accrocher ce cher Georges à la version jazz de ce même morceau, version jazz que nous aimons particulièrement parce que là-dedans, le trompettiste Cat Anderson, dont on vous parle souvent, et bien là, comme on dit chez nous, vraiment, il fait fort.
Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf du cocon, tous les jeunes blancs-becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan.
C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.